paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout ça, parce que... on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse, il n'a pas mourir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans à tête lourde.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Bonsoir, bienvenue dans les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'accaparement des terres. Donc en fait, l'accaparement des terres, c'est un phénomène qui se multiplie dans beaucoup de pays actuellement. Donc il y a des investisseurs riches qui rachètent à bas prix des terres agricoles et avec la complicité des pouvoirs politiques en place expulsent des milliers de paysans et de paysannes qui se retrouvent sans rien. Donc pour travailler là-dessus et pour faire face à ce problème, il y a un forum qui a rassemblé en novembre 2011 à Niéléni au Mali 300 paysannes et paysans du monde entier à l'appel de la Via Campesina et d'organisations paysannes locales. Du coup, on va parler de ça avec Fanny, qui est paysanne en Ardèche et qui était présente à ce forum, donc elle va nous parler un peu de ça. Mais d'abord, on va écouter un petit peu la présentation de son parcours dans l'agriculture et de sa ferme.
Comment t'es devenue paysanne? Comment ça t'est venu
Avec Manu, donc mon compagnon. On est installé depuis 3 ans à Entraigues, sur Volane en Ardèche. Ça nous est venu, Manu il est fils de paysan, donc lui il a toujours eu ça en tête. Et moi en fait, depuis toute gamine, j'avais envie de faire ce métier-là. Et puis à l'adolescence, en travaillant dans des fermes, à droite à gauche... Voilà, ça s'est concrétisé. On s'est retrouvés, on s'est rencontrés avec Manu en BTS agricole à Aubenas, où là, on allait faire un BTS pour s'installer, quoi. Donc, on commençait à concrétiser l'idée de s'installer. Et puis, on a vécu un peu en Afrique chez des paysans, on est devenu berger. Moi, j'ai travaillé en tant que salarié de la Confédération paysanne de la Drôme. Enfin, voilà, on a un peu côtoyé le milieu paysan de l'intérieur pour voir un peu... ce qu'on voulait faire, nous, exactement. Et puis, on a trouvé cette ferme à reprendre en location. Donc, voilà, on a 150 moutons. On découpe les agneaux en vente directe. On fait de la châtaigne et des pommes de terre. Voilà, grosso modo.
Du coup, la ferme, c'est tout en location, tout en fromage?
Oui, nous, on est tout en location, ouais. Donc, ce qui permet une installation sans investissement énorme, sans emprunt. Et la liberté de se dire qu'on peut partir facilement et on est moins... On n'a pas la pression, quoi, de devoir réussir à tout prix pour rembourser des emprunts et tout, quoi. Il y a une certaine liberté que je trouve super importante quand on est jeune et qu'on s'installe, quoi.
Donc, je sais pas si tu peux expliquer brièvement comment ça marche pour vous, peut-être sur une année, enfin, vite fait, quoi, en 2 minutes... une exploitation en mouton viande et châtaigne et patates.
Ouais. Et ben nous, en fait, déjà, faut expliquer que je trouve c'est important de dire que on fait ces productions là parce que elles s'adaptent à l'endroit. Enfin, on a choisi on a choisi l'endroit parce qu'on voulait faire du mouton et que c'est une zone, c'est un endroit à mouton, même s'il y a de moins en moins de moutonniers dans la Haute-Cévenne ardéchoise. Le terrain hyper accidenté, très pentu, tout ça, il permet pas de faire autre chose que du mouton. Donc voilà, faut imaginer que on est dans une zone très montagneuse, où la nature elle a repris ses droits, quoi. Donc on est, il y a un instinct un peu de gagner du terrain, quoi, sur les genêts, sur l'embroussaillement. Et donc c'est important de le dire, quoi. C'est pas toutes les fermes qui sont dans cette configuration là. Donc on a quelques terrasses assez jolies où on s'était dit qu'on pouvait faire quand même un peu de maraîchage. C'est pour ça qu'on s'est dit que les pommes de terre, ça pouvait être un complément d'activité. Et puis, bien sûr, il y a les châtaigniers. Donc, voilà, il faut valoriser ce qu'il y a sur place. Donc, l'année, nous, on fait 2 à 3 agnelages par an pour avoir, en fait, des agneaux à découper et à vendre un peu tout au long de l'année. Vu qu'on est en vente directe, faut réussir à étaler un peu la découpe de viande et la commercialisation. Donc 3 agnelages, donc ça veut dire qu'on gère des lots différents. On a des grands parcs qu'on a refaits, donc il y a plusieurs lots de brebis en fonction de si elles sont pleines, si elles sont avec les béliers. Et puis au bout de 4-5 mois de vie, l'agneau est normalement prêt à être découpé, suffisamment gros. Donc on amène les agneaux à l'abattoir d'Aubenas. On est tout en agriculture biologique. L'abattoir est aussi agrémenté pour la bio. Et puis on récupère les carcasses 2 jours après pour les découper dans un atelier collectif, voilà, qui est aux normes, et un atelier collectif de paysans.
D'accord.
Donc on découpe, on emballe sous vide et on vend en caissette de demi-agneaux dans le sud Ardèche. Sinon, les pommes de terre, on fait ça durant l'été. Et les châtaignes arrivent à l'automne. On transforme, on vend en frais, puis on transforme en confiture, farine, brise séchée, qu'on va vendre dans des AMAP aussi, plutôt hors du département ardéchois. Bah. Parce qu'en Ardèche, la châtaigne est saturée, quoi, mais sinon, on monte en Haute-Loire, dans la Loire, pour vendre les produits à châtaigne. Voilà, une année, grosso modo.
C'est quoi cette histoire de découpe, hein ?
En fait, pour valoriser l'agneau qui... Les agneaux se vendent de moins en moins bien en France. Enfin, c'est vraiment la filière la plus casse figure, pour ne pas dire de gros mots. Les agneaux se vendent rien. Enfin, nous, c'est quand même les primes qui complémentent carrément notre revenu. Mais on avait envie de valoriser un maximum. Et vu l'état d'embroussaillement de la ferme, on se disait qu'on ne pouvait pas avoir un gros troupeau. Parce que le manque d'herbe nous faisait peur, quoi. Alors qu'avant, il y a 15-20 ans... les paysans avant nous avaient 300 brebis. Nous, c'est impossible de passer avec 300 brebis. Il n'y aurait pas assez d'herbe, quoi.
Vous en avez combien, là ?
Donc nous, on en a 150. Et en fait, on valorise l'agneau le double en découpant nous-mêmes et en vendant en direct les agneaux, quoi. C'est un atelier qui a été créé il y a 30 ans par un collectif de paysans qui charcutent. C'était à l'époque surtout des cochons, quoi. Et l'idée, c'était de dire, au lieu de chacun chez soi, on crée des ateliers qui demande énormément d'investissement au niveau de la mise aux normes, c'est compliqué et tout. Autant se regrouper et faire un atelier collectif, quoi. Donc voilà, nous on passe par ça. On découpe, on vend, on gère de A à Z. Voilà. J'insisterai sur le fait qu'on est en fermage, donc voilà. C'est une super chance d'avoir trouvé en location parce que. Maintenant, trouver une ferme à acheter, plus investir dans le troupeau, dans les bâtiments, ça devient de la folie, quoi. Vu le revenu qui en sort après, nous, on a cette chance-là de pas avoir cette pression financière et d'avoir suffisamment pour vivre, franchement, parce qu'on vit, on n'a pas des besoins énormes, quoi. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir du temps libre pour la fête, pour le militantisme. Pour retourner voir les copains en Afrique, là où on a vécu. Et c'est. Voilà, si on arrive à dégager un peu d'argent pour pouvoir faire ça et du temps surtout, nous, c'est. Voilà, c'est vraiment. Mission accomplie, quoi.
Et peut-être juste si tu peux expliquer ce que c'est le fermage.
Le fermage, donc, c'est un statut dans le code rural, qui est un statut de location, locatif. Où le fermier, en fait, à force de nombreuses batailles, quoi, on a réussi à créer un statut qui soit très avantageux pour le fermier. Après toute une période où le propriétaire était maître et roi, quoi, le travailleur de la terre était considéré comme un serf, un esclave, il y a quand même eu d'énormes batailles pour que le statut évolue et que les droits du fermier soient reconnus, quoi. Donc je pense que c'est une bataille à mener, parce que malgré tout, la pression des propriétaires, des associations de propriétaires tentent de mettre à mal ce statut-là, quoi. Entre autres, là, il y a eu des grosses réformes de fait sur les tribunaux paritaires des baux ruraux, qui gèrent tout ce qui a à voir avec les questions foncières, rurales, tout ça. Et ces tribunaux-là disparaissent à tour de bras, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se bagarre pour maintenir ça, parce que entre autres, à la Confédération paysanne, on défend le droit d'usage de la terre avant le droit de propriété, quoi. Que la terre appartient aux travailleurs et non aux propriétaires. Donc voilà, je pense que c'est un statut super important à défendre.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, il est 6h15. Donc voilà, c'était un entretien avec une paysanne ardichoise sur son activité, son parcours. Et le morceau de la fin, c'était un chant populaire espagnol qui s'appelle En la plaza de mi pueblo. Et qui dit en gros, dis-moi pourquoi si les terres sont celles du propriétaire, on ne le voit jamais travailler ici. Et le journalier dit au maître, nos enfants naîtront avec le poing levé. Voilà, donc on va écouter maintenant la suite de l'entretien avec Fanny, où il est question d'accaparement des terres, et donc de ce forum qui a eu lieu en novembre 2011 au Mali, à l'appel de la Via Campesina et de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali.
En fait, là depuis, c'est assez récent le phénomène de l'accaparement des terres, après la course au pétrole et aux minerais, on se rend compte que la terre est devenue une des valeurs sûres ou une des valeurs où les investisseurs se jettent dessus, quoi. Enfin, ça y est, la terre devient une ressource trésor, quoi. Donc de plus en plus, il y a des accaparements abusifs de terres. Et où les petits paysans se font exproprier, surtout dans des endroits où la propriété privée est pas encore, figée. Entre autres en Afrique, on est dans un lieu, enfin en Afrique, le droit coutumier est d'usage. Donc c'est avec les chefs de terre, les chefs de village, on est avec des droits à la terre, on récupère les terres de parents, les terres des ancêtres, mais il n'y a pas de droit de propriété, quoi. La terre peut être redistribuée, enfin, c'est le collectif qui gère la gestion de la terre. Donc, il n'y a aucun acte notarié, ça commence juste, la propriété privée commence à arriver, quoi. Mais c'est... En brousse, ça n'existe toujours pas. Et donc, les États corrompus africains et les investisseurs en profitent pour virer les paysans, les exproprier et récupérer ces terres-là. Donc, là, entre autres au Mali, en quelques années, il y a plus de 700 000 hectares qui ont été cédés aux investisseurs privés.
Et les investisseurs privés qui sont...
Qui sont des sociétés privées, Malibia, une société libyenne. Enfin, il y a des sociétés vraiment de partout, même des sociétés au sein même du pays, quoi, des sociétés nationales ou internationales. N'importe quelle société, souvent, les fonds sont les fonds de pension, surtout de la société américaine, tout ça. Enfin, c'est les fonds de pension qui payent ces accaparements-là. Et en fait, au Mali, après avoir subi cet accaparement de plus de 700 000 hectares en quelques années, y a les syndicats du pays, entre autres la CNOP, la Coordination Nationale des Organisations Paysannes, s'est dit « Non, mais là, il faut qu'on agisse. Chacun dans son coin, enfin, les paysans essayent, tentent tant bien que mal de s'organiser pour lutter contre ce phénomène. » Mais il y a une répression hyper violente. Enfin, là, il y avait plein de paysans. Il y a encore beaucoup de paysans emprisonnés suite aux actions de défense de leur outil de travail, quoi. Et donc, la CNOP et la Via Campesina, qui est le réseau international des organisations paysannes, ils ont décidé d'organiser un forum sur l'accaparement des terres au Mali. Donc, à Niéléni, au sud de Bamako, à Sélingué, un village construit en 2007 à l'occasion du forum social sur la souveraineté alimentaire. Donc on s'est retrouvés, on était environ 300 paysans, délégués de plusieurs organisations paysannes du monde entier. Il y avait des gens de tous les pays, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique. Et l'idée, c'était de voir un peu ce qui se passait dans chaque continent, voir les accaparements, qui est une base de données, en fait, de fait sur l'accaparement des terres, et de voir qu'est-ce que nous, en tant que paysans et en tant qu'organisation paysanne, on pouvait mettre en place pour lutter contre le fléau, quoi. Vu que c'était la première fois qu'on se réunissait vraiment là-dessus et qu'on essayait d'imaginer une alliance pour lutter contre l'accaparement des terres. Donc c'était en novembre l'année dernière, pendant 4 jours. Voilà.
D'accord. Et du coup, toi, tu y allais... À quel titre ?
Donc, moi, j'y suis allée avec Christian Roquerol en tant que représentant de la Confédération Paysanne Nationale. Donc, on était deux Français. Chaque organisation envoyait des représentants, un à deux représentants, pour être porte-parole du pays ou du continent. Et puis après, voir comment, au retour, on agissait chacun dans nos pays, tout en étant en lien avec les autres structures, quoi.
Et alors, du coup, sur le contenu
du forum... Le contenu, on a eu beaucoup de... Les premières journées, c'était des témoignages des paysans expulsés, voir comment ça s'était passé, quelles étaient ces sociétés-là. Il y a eu aussi des témoignages d'ONG qui travaillent sur le sujet, plus des témoignages chiffrés pour voir vraiment ce qu'il en était, qui étaient ces investisseurs, combien d'hectares. Mais après... Il y a beaucoup de tabous sur ce domaine-là et on ne sait pas vraiment. On parle de 60 à 80 millions d'hectares dans le monde accaparés sauvagement comme ça. Mais on ne sait pas, en fait. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais on ne sait pas ce qu'il en est vraiment. Ça peut être bien plus catastrophique que ça. Donc, c'est des populations entières qui se retrouvent à la rue, vraiment, parce que expropriées, expulsées... Et souvent, en plus, avec des répressions de fous, enfin, des violences. Là, il y avait des témoignages des femmes qui avortaient sous les matraques de la milice d'État, quoi. Enfin, moi, c'était ça, quoi. Parce que les gouvernements, en fait, le problème au Mali, entre autres, c'est le gouvernement qui vend les terres, quoi, de ses propres paysans, au profit de l'intérêt pécunier direct, quoi, mais sans penser que c'est des centaines de milliers de familles qui se retrouvent à la rue. Voilà, donc on a eu toute une partie de témoignages. Nous aussi, en Europe, on m'a expliqué aussi que sans en aller là, enfin en Europe de l'Est, il y a les mêmes problèmes d'accaparement des terres en Roumanie surtout, mais même en France, nous on a parlé aussi de l'accaparement à travers l'urbanisation quoi et l'artificialisation des terres, qu'il était de plus en plus difficile de s'installer et que énormément de bonnes terres partaient sous des tonnes de béton quoi. D'accord. Donc c'était pas tout à fait la même problématique, mais quand même quoi. On avait aussi le souci de voir la terre agricole disparaître à grande vitesse, quoi.
Ouais, peut-être si t'as un ou deux exemples, t'as pris l'exemple du Mali, je sais pas si t'as un ou deux autres exemples.
Le Mali, bah, parce que comme on était au Mali, c'était vraiment... Enfin voilà, on avait les exemples, on a vu les paysans, les communautés paysannes. Après, les autres représentants, c'était souvent des représentants d'organisations paysannes. Donc des gens qui n'avaient pas forcément vécu l'accaparement des terres aussi violemment que là les délégations de paysans qui venaient de vivre ça. Enfin, au même moment, nous, il y avait des paysans emprisonnés dans des villes autour de Bamako. Donc on a côtoyé vraiment les gens qui venaient de vivre l'accaparement, quoi. Non, comme exemple, après, non, mais c'est... Les choses se font toutes un peu de la même manière, quoi. On a vu les Brésiliens nous ont montré des vidéos de répression suite à des mouvements de paysans qui luttent contre les investisseurs, quoi. Et on se rend compte, bah, c'est toujours la même chose, quoi. Des paysans qui vivent de leur travail, qui ont les terres depuis des générations et qui se font exproprier du jour au lendemain sans raison. Et toujours les mêmes violences, la même répression, alors que c'est pas des bandits. Enfin, on n'est pas des bandits, quoi. On vit de la terre, voilà. Et les paysans comprennent pas quoi ce qui se passe. La terre de leurs ancêtres, ils ont toujours cultivé ces mêmes terres et se font expulser comme ça, sans rien derrière, quoi. Sans aucune autre, sans voie d'issue, enfin sans issue de secours. C'est impressionnant. Hein.
Ah, parce que du coup, dans ces cas-là, là, la plupart, enfin, je sais pas s'ils en parlaient, mais après. Bon, à part lutter contre ça, la plupart ils sont obligés de partir en ville.
Et ouais, parce qu'on les appelle les déguerpis. Au Mali, c'est les déguerpis, quoi. Les paysans expulsés. Ils se retrouvent, mais c'est on alimente les bidonvilles, quoi. Enfin, c'est impressionnant, c'est de dire. Enfin, le Mali qui a vendu les terres, c'est impressionnant, cette politique-là est incroyable parce que c'est se dire. Alors, soi-disant, les pays africains, ils sont tous pour la voie du progrès, de la modernité. Alors qu'ils alimentent les bidonvilles, quoi, en faisant ça. Il y a les communautés paysannes entières qui se font expulser, quoi. Donc c'est des gens qui se retrouvent à la rue sans rien. Donc sans ils ont plus de maison, plus de terre, plus rien, quoi.
Ouais, du coup, la seule solution, c'est de partir en ville et...
Ouais, enfin, de zoner, quoi. Enfin, il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Ça reste quand même... Les pays africains, il y a encore 70% à 80% de la population qui est paysanne, quoi. Donc si t'as plus ta terre, tu fais quoi? Enfin, voilà. Et surtout qu'on dédommage pas les paysans, quoi. Il y a rien. Donc ils se retrouvent sans rien. Ils ont plus rien, quoi. Voilà. Enfin, c'est quand même vraiment de la folie.
Et qu'est-ce qui se passe avec les terres après? Elles sont exploitées directement derrière?
Ah ouais.
Elles sont juste rentrées chères,
sans rien? Non. Au contraire, elles sont exploitées pour des agrocarburants, faire du riz, faire. Je sais plus quel pays d'Afrique de l'Est, c'est la Tanzanie, où un paysan, enfin un investisseur indien a acheté, une seule personne quoi, a acheté des centaines de milliers d'hectares pour faire du riz, pour vendre chez lui quoi. C'est vraiment investir la terre parce que ça devient une ressource rare. Hein. Les émeutes de la faim, on prédit, c'est. Suite aux émeutes de la faim, on se rend bien compte que la terre a une valeur incroyable maintenant, quoi. C'est plus qu'une histoire de sous-sol. La terre devient aussi rare que les minerais, que l'or, que le pétrole, que...
Il y a des sociétés françaises qui...
Ouais. Je pourrais plus te dire... je sais qu'il y en a une sur Nantes. Là. Donc il y a eu ces témoignages, il y a eu les témoignages d'ONG pour nous chiffrer un peu plus, et puis pour savoir exactement comment ça se passait, qui finançait ces investisseurs, tout ça. Et puis après, on a travaillé en atelier pour voir concrètement qu'est-ce qu'on mettait en place pour lutter contre ça. Entre autres, donc il y a eu plusieurs axes de définis, il y a eu tout un... on essaye de mettre en place la lutte juridique, l'action juridique. Donc en Afrique, ils appellent ça les cliniques juridiques. Ils sont en train de mettre ça en place. Moi, je suis en lien avec quelques militants du Mali, là encore, et ça y est, quoi. Ils ont créé les cliniques juridiques, ils forment des juristes militants pour qu'en fait les paysans s'organisent et les capacités de répondre aux répressions de l'État, aux violences et tout ça, quoi. Et aussi, qu'on essaye de voir comment, au niveau du droit international, il y avait quelqu'un de l'ONU à la conférence. Délégué aux droits de l'homme, voir aussi avec eux comment on pouvait prouver au reste du monde que c'était d'expropriation sauvage et qu'on était totalement on bafouait les droits de l'homme, quoi. Voilà, donc il y a ça, donc toute la question juridique, de l'action juridique, et puis surtout insister sur le fait que l'importance en tant que paysan de se regrouper et de se rendre compte qu'on a une capacité d'action énorme, quoi. On n'est pas isolé et qu'on peut faire plier la donne. Enfin, on peut être fort, quoi, à plusieurs, si on est organisé et tout. On s'est dit qu'on pouvait pas lutter seul non plus, donc faire appel à toute la société civile. Il y a eu le forum social de Dakar il y a un an, tout juste, au Sénégal. Et à ce moment-là, il y avait eu un appel contre l'accaparement des terres qui avait été voté par des centaines d'associations. Donc c'est aussi voir avec eux pour qu'il y ait une vraie force, quoi, au niveau de la société civile, pour qu'il y ait une alliance qui lutte contre ça. Voilà, il y a tout le côté médiatique, parce que pour l'instant, finalement, les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Donc il va falloir qu'on s'organise aussi pour faire passer l'information facilement et que ça circule bien, quoi. Voilà, enfin, il y a plusieurs axes pour travailler là-dessus. Donc nous, on revient dans nos pays, chacun avec du travail à faire, parce qu'on veut rien lâcher, on est déterminé, quoi. Mais il y a aussi nous, en tant que pays du Nord, on aimerait pouvoir mettre la pression sur les investisseurs, quoi, des sociétés qui sont implantées chez nous, en fait.
D'accord.
Et qui investissent dans les pays du Sud, quoi.
Et du coup, ça, là-dessus, les pistes d'action, elles sont plutôt juridiques et...
Mais aussi syndicales, purement syndicales, avec... Ouais. Pas uniquement juridique, quoi. On met la pression en manifestant, en organisant des actions, tout ça, quoi.
Vous, sur les pistes d'action, donc il y a ça sur par rapport aux sociétés qui sont ici.
Ouais.
Et par rapport directement plus sur le terrain.
Nous, il y a un peu de. En fait, il y a l'accaparement des terres ici en France où on est sur le terrain depuis longtemps avec la CONF ou d'autres structures, quoi. Mais après, par rapport à l'accaparement, le pillage des terres en Afrique et ailleurs. Nous, on a quand même les moyens aussi, entre autres par rapport à la société civile, pour faire du bruit. On est suffisamment équipés en moyens de communication, tout ça, pour prendre ça un peu en charge. Et le lien aussi avec les ONG pour financer un peu la bagarre, quoi. On va essayer de... Enfin, là c'est tout récent, donc on se retrouve bientôt pour en parler, quoi. Et voir, moi, l'intérêt en Europe, vu qu'il y a quand même énormément de structures, d'organisations... Il va falloir que nous, on soit un peu les moteurs pour bouger tous ces gens, quoi.
D'accord.
Mais après, concrètement, en France, nous, contre l'artificialisation des terres, il y a plein de combats de mener dans chaque département. On voit ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport. On agit auprès des SAFER. Enfin, il y a quand même pas mal de bagarres qui restent actuelles, mais qui sont menées depuis des années, quoi.
Et alors, du coup, humainement, sur tes impressions de ce forum, enfin, de se retrouver avec des paysans et des paysannes qui sont de partout dans les autres pays du monde, enfin, peut-être qu'à la base, de vue de l'extérieur, on peut se dire qu'il y a vraiment un gros fossé entre les différentes conditions des uns et des autres. Comment ça s'est passé? Enfin, t'en reviens avec quoi de ça?
Ce qui est génial à la Via Campesina, enfin, ce qui est hyper fort, c'est que il n'y a aucune... Enfin, on le voit trop dans certaines ONG où on continue à avoir un peu le regard dominant-dominé, les suites d'une colonisation complètement ratée et tout ça. Et à la Via Campesina, il n'y a rien de tout ça. Enfin, on est tous paysans, quoi. Malgré tout, c'est un ciment hyper fort, parce qu'on parle des mêmes choses, on a quand même les mêmes réalités quand on parle du végétal, de l'animal, des conditions de vie, même si elles sont différentes. Enfin, moi, j'ai vécu en Afrique pas mal chez des paysans. J'avais pas l'impression qu'on était très différents, quoi. Et là, à la Via Campesina, en plus, on est tous militants, donc on a toute cette volonté d'agir. Enfin, c'est une force énorme, quoi. Et il y a, pour moi, il y a aucune différence entre un paysan népalais, de l'Ardèche profonde, du Mali, voilà. Et c'est super fort, quoi. Et puis des interventions de gens fantastiques, quoi, et qui parlent avec fougue, qui, voilà. En tout cas, en tant que petit blanc, nous n'étions pas du tout les dominants. Enfin, c'était, il y avait un vrai mélange. Les paysannes africaines qui animaient des réunions, on se mettait à danser, à chanter, enfin super force, quoi.
D'accord.
Et puis vraiment tous sur le même terrain d'égalité. Parce que voilà, là on a côtoyé des militants fantastiques, quoi, vraiment, entre autres l'Afrique. Moi, ça me faisait vraiment plaisir de voir l'Afrique en mouvement. Après avoir vu l'Amérique latine se soulever avec des grands leaders, même les paysans d'Amérique latine, là, le disaient, Rafael Alegria du Brésil, du mouvement des sans terres. Enfin voilà, eux, ils étaient heureux de voir l'Afrique en marche, quoi, et l'Afrique qui bouge. Alors que pendant longtemps, on regardait l'Amérique latine en se disant la révolution se fait là-bas. Voilà, là l'Afrique, il y a une vraie prise de conscience. Il y a des réseaux militants incroyables et ils n'hésitent pas à bouger, quoi. Et voilà. Moi, je trouve que c'était la vraie force de ce rassemblement. Et je pense que tous les rassemblements de la Via Campesina, bien loin de plein de rassemblements qui se disent altermondialistes, malgré tout, où il y a toujours un peu ces différences entre continents, entre classes, entre guillemets, là c'est vraiment. C'est la famille, quoi.
D'accord.
Ouais, et c'est vraiment fort pour ça, quoi. Et puis de voir. Enfin, la capacité d'écoute. Là, donc, on animait à tour de rôle une femme, un homme, toujours paysan, donc de continents carrément divers. Tout le monde parlait, quoi. Tout le monde prenait la parole. Des paysans qui n'ont pas l'habitude de parler, qui se retrouvaient à des milliers de kilomètres de chez eux. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils sortaient de chez eux. Ben voilà, quoi. Ils prennent la parole et ils représentent leur pays. C'était un truc de fou, hein, quand même. Le paysan népalais qui, pour la première fois, sort de chez lui, se retrouve au Mali, au fin fond du Mali. Enfin, c'était quand même incroyable, quoi. Mais on se rend compte, dès qu'on se mettait à chanter, à danser, finalement, on avait les mêmes codes pour exprimer ce qu'on avait besoin d'exprimer. Et il y avait... Ouais, moi, je trouve ça vraiment fort, quoi. Ouais.
Là, c'est encore un peu frais, mais vous êtes reparti avec... quoi comme perspective, aussi, au niveau collectif comme objectif de, enfin, est-ce qu'il va y avoir de nouveau des réunions de ce forum?
Ouais, moi je pense en tout cas on va utiliser la Via Campesina, quoi, qui existe déjà pour être en réseau et pour agir tous ensemble. Il y a la journée du 17 avril, là, la journée paysanne où on aimerait l'accès dans le monde entier sur les luttes foncières, en fait, et entre autres l'accaparement des terres. Donc si partout dans le monde on agit au même moment sur la même question, enfin voilà, il y a quand même des choses, enfin on est en lien, hein, tous, on est vraiment en lien. Moi je vois avec le Mali, là je suis en lien tous les 3-4 jours, j'ai des nouvelles de ce qui se met en place, enfin ça bouge un peu partout, quoi, vraiment. Donc après, l'idée de faire du lien, c'est super important, et la Via Campesina est là pour ça, quoi.
Peut-être là-dessus, comme tu disais, par contre, pour finir, que le 17 avril, il y a, en 2012, c'est la journée mondiale des luttes paysannes,
ouais.
Ce sera
sur le foncier,
sur,
quoi.
La question foncière.
Ouais. Bah, parce que sans terre, on n'est plus rien, hein, donc c'est un peu le béaba du métier de paysan, mais aussi de l'avenir du monde, quoi. La nourriture, l'alimentation. L'idée, des actions dans tous les pays. Et qu'après, que ça soit au niveau départemental, régional ou national, enfin, qu'il y ait des actions un peu partout, genre en France, un peu partout, quoi. Et la question foncière, voilà, il y a tellement, l'actualité est tellement chargée qu'il y a moyen de trouver des actions à mener un peu partout, quoi. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2. On vient de s'écouter Places to Hide de Jack and the Bearded Fisherman. Et c'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes pour encore une vingtaine de minutes. Du coup, avant, c'était un entretien avec Fanny sur la question de l'accaparement des terres et des pistes de résistance. Vous pourrez retrouver tout ça sur le blog de l'émission. Quelques références si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Alors sur le site de la Via Campesina, donc sur viacampesina.org, donc viacampesina.org. Il y a une page spéciale sur ce forum qui a eu lieu au Mali avec tout un tas de documents en français, en anglais, en espagnol sur l'accaparement des terres, sur la répression contre les mouvements paysans et tout un tas de choses comme ça. Donc il y a des rapports d'ONG, il y a des rapports d'organisations paysannes, etc. Et puis aussi il y a l'appel final de ce forum avec les pistes d'action menées. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça en ligne. Et peut-être pour revenir là-dessus, on entendait dans l'entretien qu'il y aura la journée du 17 avril cette année axée sur les luttes foncières partout dans le monde. Donc cette journée du 17 avril, c'est la journée mondiale des luttes paysannes. En gros, pour resituer, en fait c'est le 17 avril 1996 au Brésil. Donc le mouvement des sans-terres organisait des manifestations et des actions de blocage pour lutter contre les grands propriétaires terriens. Et donc ce jour-là, la police militaire de cet état du Brésil a abattu 19 paysans et paysannes, et 3 autres sont décédés des suites de leurs blessures, et il y a eu au total plus de 65 blessés. Et donc depuis, la Via Campesina a déclaré cette journée journée mondiale des luttes paysannes en hommage à ces personnes. Et donc toutes les années, il y a des actions un peu partout dans le monde avec des thèmes spécifiques. C'est dans ce cadre-là que l'an dernier à Genève, il y a un jardin collectif qui a été ouvert sur une friche industrielle. Donc on en avait parlé dans une émission il y a quelques mois. Cette année, c'est sur la question foncière. Donc il y aura des choses un petit peu partout où on vous tiendra au courant d'ici là. Et puis si vous avez la motivation de mettre en place des choses, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des collectifs de paysannes et de paysans et de leurs alliés près de chez vous pour mettre en place des actions dans ce cadre-là. Voilà un petit peu pour ce sujet. Sinon, on va passer à quelques petites infos pour terminer. Donc une première info, on avait parlé en décembre du procès de Monsanto, procès intenté par un paysan intoxiqué avec un pesticide de Monsanto, du Lasso. Le verdict est tombé cette semaine et Monsanto a déjà déclaré qu'ils allaient faire appel, mais ils sont condamnés à payer des dommages et intérêts à ce paysan. Ils font appel, donc la décision n'est pas finale. Mais on peut toujours espérer que ça leur fera un minimum de tort économique. Voilà un peu pour cette info. Et puis sinon, pas mal de dates à retenir, toujours sur la question de... toujours à propos de Monsanto. Entre autres, on en avait parlé aussi de tout ce qui se passe en ce moment autour des OGM et de l'éventualité des semis cette année de maïs transgénique Mont-810. Il y a un rassemblement qui est appelé lundi à 10h, place Guichard à Lyon, donc pour se rendre à la préfecture pour demander immédiatement l'interdiction du semis de ce maïs transgénique, puisque les semences vont commencer à circuler et que si le temps se radoucit, les semis peuvent arriver dans les semaines à venir. Voilà, donc c'est lundi 10h, place Guichard à Lyon, dans le 3e arrondissement. D'autres dates à retenir, on peut rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois, du 24 au 4 mars à Turin en Italie, il y a les rencontres de Reclaim the Field et les ateliers Reclaim the Seeds. dans ce cadre-là. Donc voilà, les dates sont à retenir. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois. Le forum aura commencé. Mais toutes les infos, en tout cas, sont sur le site reclaimthefields.org. Voilà, si vous êtes intéressé. Donc, pour rappel, Reclaim the Field, c'est un réseau européen de jeunes paysans, paysannes sans terre et en devenir. Et donc voilà, c'est pour discuter des situations de l'accès à la terre et de l'autonomie alimentaire. Donc c'est à Turin, et ben, petite info en passant, pas loin de Turin, il y a le Val de Suse, où des gens luttent contre un autre projet industriel et de bétonnage des terres, comme on en a parlé dans cette émission. Donc c'est la lutte contre le TAV, hein, le train à grande vitesse Lyon-Turin. Du coup, demain soir, pour les personnes que ça intéresse, sur Radio Canu, dans le Canu Info de 19 à 20h, voilà, il y a des personnes d'Italie qui viennent parler de cette lutte contre le train à grande vitesse, une lutte qui dure depuis 20 ans déjà, et donc bah, qui peut aussi faire des petits, inspirer des modèles pour d'autres endroits. Donc c'est demain dans le Canu Info, un dossier sur la lutte NOTAV. Ensuite, pour rester sur les projets industriels, on peut reparler de Notre-Dame-des-Landes, encore une fois. On avait parlé la dernière fois d'une semaine de rencontres du 5 au 10 mars sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, autour des luttes liées à l'espace et au territoire. Dans la foulée, du 9 au 11 mars, à Notre-Dame-des-Landes toujours, il y a la rencontre de convergence des luttes contre l'artificialisation des terres nourricières, donc à l'appel d'un certain nombre de collectifs qui luttent contre des lignes à grande vitesse, des autoroutes, des lignes très haute tension, et tout un tas de choses comme ça, des zones industrielles, des aéroports, etc. Donc c'est les 9, 10 et 11 mars à Notre-Dame-des-Landes, et puis vous pouvez retrouver les infos sur différents sites, entre autres celui de la Confédération Paysanne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les rendez-vous, et puis bien sûr on rappelle qu'il y aura le 17 avril des actions un peu partout, donc n'hésitez pas à retenir la date. Et on en reparlera plus précisément d'ici là. Une dernière petite info quand même. Le 28 février, en Ardèche, à Privas, il y a le procès d'un éleveur pour refus de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine. Donc la fièvre catarrhale ovine, pour rappeler, c'est cette maladie vectorielle et non contagieuse à l'homme dont le vaccin avait été rendu obligatoire causant tout un tas de problèmes dans les élevages en 2009 et 2010. Donc le vaccin est plus obligatoire, mais par contre les personnes qui ont refusé de vacciner ces années-là sont encore poursuivies, dont cette personne en Ardèche qui est jugée le 28 février à Privas. Sachant que on reviendra sur cette fièvre catarrhale ovine et sur cette soi-disant crise sanitaire dans une prochaine émission, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Donc il y a un rassemblement devant le tribunal à l'occasion de son procès. Voilà, on a le temps de se réécouter un petit morceau. Vous êtes toujours sur Radio Canu, on vient de s'écouter Le Tigre avec le morceau TKO. Voilà, bah, les paysannes et paysans dans la lutte des classes, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle que les anciennes émissions sont toujours accessibles et téléchargeables et écoutables sur le blog, donc blog.radiocanu.org/lutte paysanne, tout attaché au pluriel. Et puis, si vous avez des commentaires sur l'émission, des remarques et aussi des rendez-vous et des infos à faire passer sur l'agriculture et les luttes paysannes, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un mail à Lutte Paysanne, donc LUTTESPAYSA2NES, @riseup.net. On est un peu en avance, donc on va laisser la place au Canu Info dans 5 minutes. Et puis la semaine prochaine, c'est Grain de Sable et on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.
Le paysan, il a un statut. Sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de ville capitaliste.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
En bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans, la tête haute.